France Inter, le 7-9, intervenez.
Vous avez la parole, bonjour Marie-Noël.
Oui, bonjour. Merci.
Alors, je vous remercie pas, hein, parce que c'est vous du coup, et du coup, je ne sais plus parler. Je bafouille depuis 8h20.
Vous avez fait une transition extraordinaire. Effectivement, c'est du coup, dès qu'on commence à y prêter attention, on l'entend absolument partout, et c'est sorti cette année. Et je ne vois pas d'où c'est sorti. Ça a commencé dans la génération des 30 ans et tout le monde s'y met. Et je commence même à le voir à l'écrit, en ponctuation de phrase.
Et du coup, vous avez une idée de l'origine ou c'est une génération spontanée d'après vous ?
Absolument pas. Et c'est bizarre cette expression parce qu'elle est en plus agressive. Un coup, c'est un coup qui coupe, c'est un coup qui cogne. Qu'est-ce que c'est que ce coup qui est devenu la virgule?
C'est vrai que c'est une virgule. C'est à la fois un point, vous avez raison, très très fort, un grand coup et une virgule. Bernard Cerchiglini, qu'est-ce qu'on peut dire à Marie-Noël?
Eh bien, c'est une locution à la mode en ce moment, qui remplace de ce fait, par suite, cependant, ainsi de suite. C'est pas forcément un coup qui frappe, on peut dire aussi un coup à jouer, de ce coup, on disait au XVIe siècle, si je me rappelle bien, de ce fait, c'est simplement une de ces locutions qui se distribue et qui va disparaître sans qu'on s'en aperçoive.
Et pourtant,
oui, c'est ça, bien sûr, c'est pour autant, parfaite, de ce fait.
Xavier est en ligne, bonjour Xavier.
Oui, bonjour Nicolas. D'abord, merci de nous dire un petit mot de littérature tous les matins.
C'est gentil.
C'est sympa, même si on n'a pas le temps de tout lire d'un jour à l'autre.
À la retraite.
Alors, je vais vite te poser ma question. Je la pose d'abord en termes un peu compliqués. Je me demande si les hommes politiques, notamment, n'utilisent pas un peu trop la fonction métalinguistique du langage. Alors, en deux mots, ils commentent leur message en même temps qu'il le donne, et parfois commente le message sans même le donner. Juste un petit exemple. Nicolas, demandez-moi si la porte est ouverte, Nicolas.
La porte est-elle ouverte, Xavier?
Écoutez, monsieur Demorand, moi je vais vous répondre très franchement, parce que j'ai l'habitude de parler franchement aux Français, la question n'est pas là. Voilà.
Qu'elle soit ouverte, oui, mais les Français ne comprendraient pas, Xavier, que vous ne répondiez pas. Merci pour cette question sur la dimension métalinguistique du discours politique. Qu'en pensez-vous, Cécile Alduy ?
C'est une excellente remarque.
Mais formidable. Ouais.
Alors vraiment, excellente remarque. Effectivement, c'est tout à fait juste. Et j'ai envie de dire, non seulement les politiques qui sont interviewés dans des petites interviews...
Vous aussi, commentent... vous avez envie de dire. J'ai envie de vous dire.
Oui, commentent la question et leur manière d'aborder la question plutôt que le fond de la question. Mais encore plus retors, je crois, la candidature d'Emmanuel Macron en 2016 a été elle aussi méta d'un certain point de vue, puisqu'il a passé son temps non pas à déployer un programme des mesures, mais à commenter le processus même de sa campagne et de sa démarche. Mmh. Donc il a passé toute la fin 2016 à commenter ce que c'est que sa propre candidature. Mmh. Avant...
Tout en critiquant les commentaires des commentateurs, ce qui donnait une mise en abîme vertigineuse.
Il a eu une méta-campagne où il commentait le processus de sa propre candidature et la méthodologie de sa candidature plutôt que le fond, le contenu même de son programme. D'ailleurs, il refusait ce mot de programme.
Oui, c'est ça. Le
commentaire du message est le message.
Oui.
Mais ça s'appelle la rhétorique. Finalement, c'est aussi une grande tradition. Cicéron le faisait.
Oui.
Oui, mais c'est étonnant aujourd'hui.
Mais c'est la version moderne.
Voilà. Oui, on dit que c'est très différent en fait, qu'il y a une part, mais qui est déjà là dans la rhétorique, hein, une part de ruse et de fausseté.
De ruse, de reprendre le message, de reprendre la question. Tout ça, c'est des vieux trucs, mais qui sont remis au goût du jour. C'est vraiment étonnant.
Patricia, bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue.
Voilà, je voulais vous demander, parce que ça commence à me hérisser, et j'aime beaucoup la langue française pour l'enseigner avec l'anglais. Voilà, on découvre des nouveaux mots tels que bienveillance qui, à force d'être utilisés, finissent par être vidés de leur substance. Et j'ai l'impression que le saupoudrer comme ça dans tous les discours, c'est une manière qu'on a de un peu manipuler nos cœurs, nos sentiments et nos idées.
Et vous avez peur, Patricia, qu'un mot comme bienveillance soit usé à force de circuler ?
Bien sûr, mais il l'est déjà pour moi.
Cécile Alduy vous répond.
Oui, alors il y a deux choses en fait dans cette question. Il y a le phénomène d'édulcoration du sens même du mot, qui était un mot assez fort, la bienveillance. C'est une attitude spirituelle de charité. Donc c'est un registre à la fois assez élevé qui suppose des actes aussi en conséquence. Mais il y a aussi le caractère affectif et émotionnel des connotations du mot qui vont influencer la réception du message. Donc quand on parsème son discours de ce mot de bienveillant, Emmanuel Macron disait « je vous aime » à son public pendant les meetings, on retient la valeur émotionnelle, cette aura, ce petit cocon affectif, plutôt que, une fois encore, le contenu des politiques annoncées.
Vous avez dit ou écrit quelque part, Cécile Alduy, que la figure qui caractérisait les discours d'Emmanuel Macron, c'était l'euphémisation.
Oui.
Expliquez-nous.
Oui, ben alors bienveillance, c'est une bonne illustration de ça, c'est-à-dire que la réalité... Par exemple, l'abolition du mot pénibilité dans la loi, dans le code du travail, parce que il n'aime pas trop ce mot. Le travail ne devrait pas être pénible. Oui, d'accord, mais il y a quand même des gens qui bossent et pour qui c'est coûteux physiquement, pour leur santé, morale, physique. Il y a, en fait, ça fait partie de cette idéologie de la start-up nation. Et moi, j'habite dans la Silicon Valley, donc je le vois, qui est d'inventer un monde sans friction. Où tout glisse. D'ailleurs, un des mots qu'adore Emmanuel Macron, c'est fluide, agile, mobile. Cette idée que tout va glisser sans aucune aspérité, y compris les aspérités du monde social. Donc on va gommer les conflits, on va gommer les difficultés. Ceci, ça se fait notamment par la langue. Bienveillance est une manière de le dire. À côté de ça, cette euphémisation permanente, ça nous fait donc passer de perquisition à visite domiciliaire, par exemple, ce qui n'a pas les mêmes connotations lorsqu'on les entend. Mais oui, la réalité de...
Qui est les mêmes quand on les vit, en
revanche. Exactement, mais la difficulté continue à perdurer. Ouais. Et d'autre part, les réalités difficiles qui sont quand même cachées par ce langage apparaissent de temps en temps au gré d'écart de langage, par exemple quand Emmanuel Macron a parlé de ceux qui ne sont rien, qui est une formule d'une violence sociale extrême.
Mmh. Bernard Cerchi-Gligny sur l'euphémisation.
Oui, il y a un côté politiquement correct. Donc les mots ne doivent pas blesser. Si les choses blessent, au moins on cache les mots. Mais j'ajouterais, par ailleurs, qu'il y a aussi une stratégie chez Emmanuel Macron, à une époque d'hyperbolisation générale de la langue, la parole jupitérienne doit être faite de peu de mots et usée à leur stricte valeur. C'est clair, il y a un côté gaullien aussi, un mélange de politiquement correct et de De Gaulle dans le choix de mots simples et du coup que l'on note.
Allez, on retourne au standard. Charles nous appelle des Alpes-Maritimes. Bienvenue Charles.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Alors vous avez très bien relevé le registre désuet dans le discours de Macron, qui se mêle un peu à la génération start-up. Mais je voulais revenir sur un terme qu'il avait employé dans un discours, il me semble, face à des préfets, lorsqu'il avait dit que l'État n'était pas totipotent.
Totipotent.
Voilà, et donc là, ça renvoie au vocabulaire de la biologie cellulaire. Pour ceux que ça intéresse, je vous laisse aller voir ce que ça veut dire et ce que ça peut être, ce que ça peut révéler aussi de sa politique. Et donc je voulais savoir par rapport à si Cécile Alduy avait retrouvé d'autres exemples de ce registre, sachant que ça renvoie aussi un peu à la pensée complexe de Pierre Morin et à la théorie générale des systèmes de Bertalanffy.
Merci Charles pour cette question. Alors la totipotence pour commencer, Bernard Cerchi-Gligny.
Oui, c'est un lapsus ou une jolie pirouette du président, ouais. Car la totipotence est un mot de biologie très technique, qui veut dire qu'une cellule peut remplacer n'importe quelle autre cellule.
À ne pas confondre avec la tautologie.
Voilà.
Et
avec
tout et rien.
L'omnipotence, parce que en fait, ce que le président met dans la tête, c'est pas totus, mais omnis, qui ont les mêmes sens. En fait, il est omnipotent, c'est-à-dire qu'il a eu un pouvoir souverain, mais pour ne pas le dire, il a utilisé totipotent.
Donc c'est peut-être un lapsus.
Un lapsus astucieux, mais ça, Sigmund Freud l'a montré avant nous.
Cécile Alduy sur la dimension médicale, la métaphore médicale dans les discours d'Emmanuel Macron.
Elle est relativement absente par rapport à d'autres. C'est-à-dire que, par exemple, François Fillon a beaucoup utilisé la métaphore médicale, Sarkozy aussi. Emmanuel Macron, moins, parce qu'il a un discours très optimiste. Donc, plutôt que d'insister sur les plaies de la société, les problèmes...
Oui, le cancer de la cistana.
Voilà, il n'est pas du tout là-dedans. Il est plutôt, au contraire, dans, ben, justement, euphémiser les problèmes et se projeter dans l'avenir lorsque ce monde sera meilleur. Donc, mais c'est pour revenir à Toti Potent, qui est moins intéressant, c'est vrai que ça, quand même, ça révèle, si ce n'est pas un lapsus, une conception de la société où les individus sont interchangeables dans cette société. Et ça, c'est aussi assez révélateur.
Merci à tous les deux, Cécile Alduy, Bernard Cerqui-Gligny, et merci évidemment aux auditeurs de France Inter. Formidable ce matin encore, en ligne sur le site internet de France Inter, les différents ouvrages que l'on peut lire de vous. Merci encore à tous les deux, il est 8h52.